Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga. Dans ce podcast, je reçois des profs passionnés pour aborder avec eux des thématiques en lien avec nos corps, notre santé ou notre quotidien à travers le prisme du yoga. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder un sujet dont on parle, je trouve, assez peu, celui des blessures dans la pratique du yoga. Pour ça, je reçois Florence Roulière, enseignante de yoga certifiée en yoga-thérapie, qui est passionnée notamment d'anatomie et s'intéresse beaucoup à cette question. Elle nous explique pourquoi les blessures peuvent survenir et surtout comment s'en protéger. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me mettre un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify, c'est vraiment un bon moyen de m'aider à le faire connaître. Bonne écoute! Bonjour Florence, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour aborder ce sujet dont on parle pas si souvent que ça dans le yoga, qui est celui des blessures.
Oui, bonjour Laura, merci de m'accueillir avec cette question que je trouve en effet importante. On va voir probablement qu'elle n'est pas si centrale que ça, mais elle reste importante et c'est bien de pouvoir en parler.
Oui. Alors est-ce que pour commencer, tu peux nous résumer un petit peu ton parcours à toi dans le yoga ?
Oui, alors moi j'ai un parcours... J'ai fait des allers-retours. Je pratique le yoga depuis une vingtaine d'années. J'avais commencé parce que j'étais pleine de douleurs. Et ma mère m'avait littéralement traînée au yoga en me disant « tu vas voir, ça va te faire du bien ». Et je me disais « mais hors de question de faire du yoga ». Ce truc où on reste assis, les jambes croisées, sans bouger pendant des heures, non, non, non. Et puis bon, évidemment, ça a été un vrai coup de cœur parce que j'aime tellement le mouvement. Et en fait, le yoga n'était pas tellement démocratisé à l'époque. Il n'y avait pas autant de yoga, de propositions de yoga que ce qu'il y a maintenant. Donc j'ai commencé à butiner autant que ce que je pouvais parce que j'ai vraiment plongé littéralement dedans et je me suis baladée d'une lignée à l'autre faute de propositions plus larges en fait. Mmh. Donc je prenais tous les cours qu'il y avait dans ma toute petite ville et c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans toutes les lignées en fait. Et j'ai continué pendant très 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 longtemps. J'ai vraiment exploré plein de lignées, plein de pratiques différentes pour me retrouver plus à l'aise moi. Non pas dans une lignée, mais dans une approche qui est thérapeutique, avec la pratique de la yoga-thérapie. Donc je me suis formée avant, à plusieurs reprises, dans certaines lignées de yoga en tant que professeure de yoga. Et puis je me suis formée en yoga-thérapie et j'avais mis le doigt dans une autre vision du yoga, une vision par les lunettes, le point de vue de la connaissance, de la science et... J'ai pas pu m'arrêter en fait, j'ai commencé à étudier l'anatomie, la physiologie, je continue toujours. Et voilà, c'est mon point de vue à moi sur le yoga, il est plutôt sous l'axe et thérapeutique et scientifique.
D'accord. Et alors pour en venir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, est-ce que toi, à titre personnel, tu as déjà connu des blessures qui ont été liées à ta pratique ?
Alors oui, malheureusement. oui, bien sûr, parce qu'on a quand même une pratique qui... Ben, c'est une pratique corporelle, hein, c'est une pratique physique qui pourrait s'apparenter dans son aspect postural à n'importe quelle autre pratique sportive. Donc forcément, on s'expose à se blesser éventuellement à un moment ou à un autre. Donc j'ai eu plusieurs types de blessures, des blessures par répétition, par manque d'adaptation des tissus, de type tendinopathie, souvent dit tendinite, sont des tendinopathies. Et puis j'ai eu des blessures par contact avec des enseignants qui ont décidé de me manipuler pour me faire aller plus loin en portant le poids de leur corps ou en me poussant de manière un peu surprenante, par surprise, et en allant beaucoup trop loin pour ce qu'étaient capables de faire mes tissus à ce moment-là.
D'accord, bah on reparlera effectivement un petit peu plus tard de ce qui peut causer ces blessures, mais déjà pour poser un petit peu le tableau, est-ce qu'on a une idée de la fréquence des blessures en yoga et est-ce qu'on connaît les blessures les plus courantes ? Moi j'avais juste lu une étude australienne, je ne sais pas si elle est représentative, mais elle disait que 10% des pratiquants du groupe qu'ils avaient interrogé avaient déjà connu une blessure et que ça concernait le plus souvent le haut du corps. Toi, qu'est-ce que tu sais là-dessus ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ?
Déjà, il faudrait peut-être définir le terme de blessure, ce que ça implique. Ça affecte les tissus du corps, que ce soit les os, les muscles, les tendons, les ligaments. Et ces tissus-là, en temps normal, ils sont capables de supporter un certain stress physiologique auquel les tissus s'adaptent constamment, progressivement. Quand on pratique, on s'adapte de plus en plus. Ils s'adaptent de plus en plus. Ils deviennent de plus en plus forts et de plus en plus résilients. Et la blessure, c'est quand ce stress biomécanique excède la capacité de résistance des tissus. C'est-à-dire qu'on en a trop fait ou trop vite, et à un moment donné, c'est trop. pour les tissus qui n'ont pas eu le temps de s'adapter. Ces blessures-là, elles peuvent être soit aiguës, c'est-à-dire qu'un instant, on n'a rien, puis l'instant d'après, aïe, on s'est fait mal. Je ne sais pas, on a pris un appui, par exemple, sur les mains pour faire une posture inversée, le handstand, et tout d'un coup, on a mal au poignet. Voilà, ça peut être une blessure aiguë. Et il y a également les blessures chroniques, qui sont des blessures qui s'installent avec le temps d'apparition progressive et puis qui durent. Les tendinites, par exemple, les tendinopathies sont plutôt de ce registre-là. Ça apparaît progressivement. On a quelques études ces 10 dernières années. Effectivement, tu as vu l'étude australienne, il y en a d'autres. Et les résultats sont plutôt réjouissants parce que toutes les études sont d'accord pour dire que le yoga n'est pas une pratique à haut risque.
Première bonne nouvelle.
Ah oui, il y a essentiellement que des bonnes nouvelles dans cette histoire de blessures parce que, en fait, on n'a pas une pratique à haut risque. Il y a très peu de blessures dites graves. Vraiment une chute où on se tord le cou, où c'est grave pour la santé, hein, pour la survie. Ça, c'est extrêmement rare, finalement, contrairement à d'autres sports. Donc, ces blessures graves, c'est rarissime. On a probablement plus de blessures chroniques, des blessures de fatigue. Enfin, fatigue, c'est pas le mot, mais c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est-à-dire que le corps n'a pas eu le temps de s'adapter à ce qui lui est demandé. Voilà. Mais les blessures les plus fréquentes, qu'elles soient modérées, aiguës ou chroniques, c'est souvent effectivement lié aux postures sur les épaules, sur la tête, comme la chandelle, la posture sur la tête. Ces postures-là, effectivement, ont été listées comme provoquant plus de blessures. Un deuxième aspect qui a été listé, ce sont les blessures des ménisques, des genoux, qui sont plus fréquents, à cause de certains appuis et puis des lotus. Et puis, alors en dehors des études, il y a également certaines opinions qui nous arrivent, qui viennent d'enseignants qui sont des formateurs et qui ont un large public. Quand ils font des formations de professeurs, ils ont les retours de centaines de professeurs en même temps. Et ces personnes-là nous rapportent des tendinopathies fréquentes. Donc, c'est les fameuses tendinites dont je parlais.
Oui. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler comment ça se manifeste pour qu'on puisse la reconnaître peut-être si on en souffre?
La tendinite, on se sent rouillé quand on n'est pas échauffé. Ça, alors selon les personnes évidemment, parce que c'est la sensation de la douleur est très particulière. Ça peut brûler, ça peut tirer, une sensation de raideur, d'enraidissement, qui s'efface un petit peu quand on s'échauffe au fur et au fil de la pratique, et qui peut limiter l'articulation dans son amplitude évidemment. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la douleur n'est pas corrélée à la blessure. Ça, c'est une notion dont on n'a pas conscience souvent parce qu'on pense que s'il y a douleur, c'est qu'il y a un bobo, que c'est un signal d'alerte. Alors qu'en réalité, on peut avoir douleur sans bobo et on peut également avoir la blessure sans douleur. Donc, on peut très bien ne pas être au courant qu'on a une blessure. Donc, voilà pour les tendinopathies. Et ces personnes, ces enseignants précisent qu'il s'agit de tendinopathie des hanches, tendinopathie des épaules. On parle beaucoup de l'épaule chaturanga dans le milieu du yoga. Chaturanga, c'est cette posture qui consiste, comme quand on fait des pompes, depuis la posture de la planche, de descendre sur le sol à la seule force des bras, en pliant les coudes. Et effectivement, on recense pas mal de tendinopathie des épaules liée à cette posture, pas parce que c'est une mauvaise posture, mais juste parce que souvent on la fait trop vite quand on débute le yoga, avec trop de répétitions, et que les tissus n'ont pas le temps de s'adapter.
Et oui, tu me disais aussi en préparant ce podcast, d'ailleurs, que le risque de blessure, il augmente notamment avec deux choses, hein, parce qu'évidemment il y a plein de facteurs, mais que le risque de blessure, a priori, a tendance à augmenter avec l'âge. Et puis aussi avec l'hyperlaxité, ce qui irait peut-être contre un peu une idée reçue qu'on a au sujet de la souplesse et des blessures d'ailleurs.
Oui, on a pas mal de croyances autour de la souplesse, on en a d'autres autour du yoga. On imagine souvent que la raideur est un facteur de risque de la blessure et que la souplesse est protectrice, qu'on se blesse moins quand on est souple. Et en réalité, c'est pas juste, il y a autant de blessures chez les personnes raides que chez les personnes souples. On ne va pas se casser comme du cristal si on s'étire chez une personne raide. Et à l'inverse, les personnes ultra souples, qu'on dit hyperlaxes, qui ont des tissus, des ligaments, des tendons, qui ont une laxité qui est dans leur gène faite pour avoir plus de souplesse, ces personnes-là se blesseraient plus. Ce serait un facteur de risque d'être hyperlaxe en réalité.
Oui, ça c'est bon à savoir si on sait qu'on a cette particularité pour adapter sa pratique, j'imagine.
Oui, alors la difficulté, c'est que l'intégralité des postures de yoga telles que représentées dans les livres classiques de yoga, telles que représentées dans les revues, qu'on trouve dans le grand public, exigent toutes de l'hyperlaxité. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas laxe ne peut pas pratiquer ces postures-là telles qu'elles sont présentées sur la photo. Elles peuvent passer 10 ans à essayer de s'étirer pour y arriver, elles n'y arriveront pas, parce que dans ces amplitudes-là, elles ne sont accessibles qu'aux personnes qui sont hyperlaxes de naissance.
Oui, ce qui fait que cette hyperlaxité, elle est plutôt valorisée dans ces images
du yoga. Elle est complètement valorisée dans la sphère du yoga, exactement. L'hypersouplesse est trop valorisée probablement parce que finalement, elle sert à faire les postures, mais ces postures-là en soi, elles ne servent pas spécialement. On peut très bien les faire dans des amplitudes inférieures, mais chercher à faire ces fameuses postures qui nécessitent l'hyperlaxité alors qu'on vieillit, c'est un facteur de risque. On risque d'aller trop loin, de se faire mal. Il y a le sexe également. Les femmes seraient plus à même de se blesser dans certaines postures, notamment dans ce qui exige beaucoup de souplesse au niveau du bassin. Le bassin, normalement, est très très stable. Chez les hommes, il est extrêmement stable. Et chez la femme, pour des raisons obstétriques, il a une forme légèrement différente. Quand on est en âge de procréer, qu'on a certaines hormones qui vont permettre une meilleure souplesse ligamentaire, le bassin va être moins stable. Et ça fait partie des blessures que l'on voit au niveau des sacroiliacs, au niveau du bassin de la femme et des hanches.
D'accord. Donc on va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui peut causer des blessures en yoga, parce que l'idée c'est évidemment de les éviter. C'est vrai que ça peut paraître étonnant qu'elles surviennent dans une pratique où on est plutôt censé être à l'écoute de soi et bienveillant envers son corps. Donc toi, d'après ce que tu observes, ce que tu sais, ces blessures, généralement elles surviennent dans quelles circonstances? Tu nous disais tout à l'heure que c'était plutôt dans le cas des blessures chroniques liées à la répétition, à une accumulation de choses. Et une des choses qui est peut-être aussi surprenante, c'est que finalement les blessures, elles surviennent pas forcément chez les débutants. Et ce serait même plutôt le contraire. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Dans les facteurs de risque ou les facteurs protecteurs, si on s'en sert bien, il y a des choses aussi bêtes que le sommeil. Est-ce que j'ai bien dormi cette nuit? Parce que le fait de manquer de sommeil, c'est un stress physiologique pour l'organisme et donc pour mes muscles, mes tendons, etc. Il y a l'hydratation. Est-ce que j'ai suffisamment bu d'eau ou de tisane et limité l'alcool, le café, qui sont plutôt déshydratants? Donc ça, sont déjà des choses qu'on peut un peu contrôler pour éviter de prendre des risques. Il y a un facteur qu'on ne suppose pas en yoga, parce qu'on a tellement cette idée dont on parlait à l'instant que le yoga, c'est pour de la souplesse, vers plus de souplesse et toujours plus de souplesse, qu'on en oublie que quelque chose qui est très protecteur pour nous, pour nos tissus, c'est la force. Et que le manque de force peut être un facteur de risque. Si je suis une personne qui est très sédentaire, et puis qui fait qu'un cours de yoga par semaine, et que je fais un cours de yoga où je vais vraiment travailler ma souplesse, le manque de force peut être un facteur de risque dans certaines amplitudes, par exemple. Parce qu'il y aura un moins bon contrôle, une moins bonne contention articulaire. Donc c'est tout cet ensemble-là de choses qui peuvent faire la différence à l'instant T.
Donc là, c'est important d'avoir des pratiques de renforcement musculaire, que ce soit dans le yoga ou à travers d'autres pratiques.
Exactement. Et le stress joue si on a eu une journée très stressante et qu'on arrive au yoga et qu'on n'est pas centré, pour peu qu'on soit dans une période où on est fatigué, où on manque de sommeil, on a beaucoup de stress au travail. On empile un peu tous les facteurs de risque pour se blesser. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment être à l'écoute et se dire « aujourd'hui, j'en fais moins. J'ai mal dormi, je suis fatiguée, je suis pas bien, je vais pas forcer, je vais m'écouter tranquillement. » Donc tout ça, ça fait partie effectivement des facteurs de risque et le plus important étant la préparation. Le facteur de protection le plus important, c'est la préparation. C'est-à-dire que quand on pense blessure, si on se fait une blessure aiguë, un instant T, j'ai fait une posture, aïe, lumbago. Ça m'est arrivé aussi. On va avoir envie d'incriminer la posture à l'instant T. On va se dire, oh là là, cette posture, d'abord j'étais mal alignée, ou alors le prof a dit un truc qui ne me convenait pas. La question qu'il faudrait se poser, c'est quelle pratique j'ai fait ce jour-là? Dans quel état j'étais ce jour-là? Et quelle pratique j'ai fait les semaines et voire les années précédentes? Parce que, est-ce que j'étais préparée? Est-ce que j'avais une pratique suffisante pour aller dans une telle amplitude, avec autant de force, avec autant de répétitions, etc. Et ça m'amène à répondre à ce que tu m'as demandé en priorité, c'est-à-dire effectivement, les blessures chroniques ou aiguës, je ne crois pas qu'il y ait de différence, sont plus souvent relevées chez des personnes qui ont soit beaucoup de pratiques et d'expérience, soit qui sont carrément enseignants. Et en fait, ça peut s'expliquer justement par le fait que plus on a d'expérience et plus on va aller vers des postures exigeantes, peut-être exigeantes en termes d'équilibre, exigeantes en termes de préparation, et peut-être qu'à cet instant-là, on n'était pas exactement prêt. Ou alors pour les pratiquants réguliers ou pour les enseignants, on a des pratiques intensives, on a des pratiques très quasiment quotidiennes, parfois plusieurs fois dans une journée, et il manque quelque chose qui est absolument essentiel à l'adaptation des tissus, qui est le temps de récupération. Le fameux Shavasana qu'on fait, cette posture de relaxation et de récupération, certains l'appellent, j'aime beaucoup ce nom-là, l'appellent le repos constructif. Parce que c'est un repos qui va permettre aux tissus de se réparer. On les a sollicités. Il y a, ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'il y a des micro-traumatismes quand on bouge, quoi qu'on fasse. Mais le temps de récupération va permettre de cicatriser. Et ce sont ces cicatrices-là qui font que les tissus seront plus forts la fois d'après. Donc si on respecte ce temps de récupération, on construit. C'est un repos constructif. Si on ne le respecte pas, on surstresse les tissus. Ils sont dépassés par le stress, par ce qu'on exige d'eux. C'est probablement pour ça que les enseignants et les pratiquants expérimentés se blessent plus facilement.
Ouais, ce qui veut dire aussi peut-être que les blessures peuvent survenir plus facilement dans des périodes où on enchaîne beaucoup de cours, soit plusieurs dans la journée, soit chaque jour, type retraite de yoga, type formation de yoga.
Oui, tout à fait. Une retraite de yoga, il faut vraiment avoir conscience quand on débute le yoga que c'est très exigeant pour des tissus qui n'ont pas l'habitude. C'est très exigeant pour un corps qui n'a pas l'habitude. Donc, il faut vraiment être vigilant de la part du pratiquant comme de la part de l'enseignant quand on a des débutants. On a fait quelques cours de yoga, on s'est enthousiasmé, on part en retraite. Et tout d'un coup, on va pratiquer 4 heures par jour pendant 6 jours. C'est un bon moyen de se blesser. Donc, il va vraiment falloir être patient, humble, malgré son enthousiasme. Et je suis plutôt du genre enthousiaste au niveau mouvement. Moi, dès que je peux bouger, probablement pour ça que je me suis pas mal blessée. Mais c'est vrai qu'on a envie de faire. Et bon, c'est à ces moments-là qu'il faut être vigilant et que l'enseignant soit très progressif dans sa pédagogie.
Et en termes de préparation, tu parlais tout à l'heure de la préparation, est-ce que l'échauffement permet aussi de diminuer le risque de blessure? Et est-ce que notamment quand on pratique seul, c'est indispensable de toujours penser au début de sa séance, de bien laisser de la place, du temps à des postures ou des exercices d'échauffement, notamment pour les épaules, si on sait que les épaules ont tendance à être très sollicitées. Qu'est-ce qu'on peut conseiller là-dessus, certains types d'exercices, le temps qu'il faut consacrer à l'échauffement dans une séance?
Oui, alors le conseil c'est toujours de rester connecté à ses sensations parce que si on est vraiment vraiment dans ses sensations, elles vont nous répondre. C'est la plus grande difficulté, hein. c'est à la fois l'objectif du yoga et en même temps c'en est le chemin. C'est ce qu'on veut être au final, on veut être complètement connecté à soi et c'est le chemin de la pratique de se reconnecter petit à petit, respiration par respiration, mouvement par mouvement, posture par posture. L'échauffement, alors il y a eu des gros débats, je vais essayer de te résumer 40 ans de débats scientifiques sur l'échauffement. Aujourd'hui, on pense que l'échauffement le plus efficace, c'est celui qui va mimer très progressivement ce qu'on va faire après. C'est-à-dire que quelle que soit la pratique qu'on va faire, faire des mini-mouvements progressivement de plus en plus amples, progressivement de plus en plus rapides.
Ouais. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner?
Oui, tout simplement, si on veut faire la salutation au soleil un certain nombre de fois, le meilleur échauffement sera de faire la salutation au soleil très lentement, très progressivement, peut-être avec des demi-mouvements pour commencer. Mmh. Par exemple, quand on commence la salutation au soleil et qu'on s'incline jusqu'à aller, en théorie, poser les mains sur le sol, peut-être qu'on va descendre qu'à mi-chemin pour avoir le dos à l'horizontale et puis remonter plusieurs fois tranquillement. Peut-être qu'après, quand on va commencer à faire des fentes en reculant un pied pour avoir un écart important entre les deux jambes, on va faire un écart moins grand, qu'on va commencer avec un genou au sol, etc. Donc vraiment réduire toutes ces amplitudes et progressivement sentir que le corps se délie. Et c'est quand on se sent vraiment délié, quand on sent que les muscles sont un peu plus chauds, et ça on doit en avoir la conscience, le ressenti, qu'on va pouvoir faire la pratique en question. Et c'est valable pour absolument toutes les postures. Si on veut faire des postures de torsion, on va commencer à faire des torsions très douces, progressivement, toute une série de torsions pour arriver à avoir un peu plus de souplesse dans les tissus, comme si on les prévenait en fait. on joue sur cette viscoélasticité des tissus et petit à petit, on va un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus loin.
Et l'idée des petits exercices qu'on nous propose parfois en début de séance pour échauffer les poignets avec des rotations ou échauffer les épaules avec voilà, des cercles de bras, des mouvements d'épaules, ça c'est intéressant aussi.
Bien sûr, tout ce qui va remettre le corps en mouvement avec douceur, avec conscience, chaque segment du corps. Et puis ça nous permet aussi de revenir dans notre corps quand on arrive de l'extérieur, qu'on est agité, qu'on a passé une journée voilà, sur un certain rythme, qu'on a pris le métro ou qu'on est resté dans les embouteillages, etc. Voilà, ça nous permet aussi de revenir dans notre conscience du corps, segment par segment.
Et tu parlais des répétitions, des salutations au soleil et du fait que les pratiques et les gestes répétitifs peuvent être particulièrement risqués. Qu'est-ce qu'on peut penser du coup de certaines pratiques comme les 108 salutations au soleil qu'on propose parfois à l'arrivée du printemps ? Est-ce que ça, on peut le faire à certaines conditions ou est-ce que de manière générale, c'est typiquement le type de pratique qui va entraîner vers des blessures chroniques ?
Alors, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que est-ce que mon corps est prêt ou pas ? Est-ce que je l'ai entraîné à faire d'abord 6 salutations au soleil, puis 8, puis 10, jusqu'à monter très progressivement à 108 salutations au soleil, que ce soit au niveau de mes tissus musculo-squelettiques ou que ce soit au niveau de mon cœur aussi, hein, la fonction cardiovasculaire qui doit être entraînée parce que c'est quand même un gros effort de faire 108 salutations au soleil. Donc si je veux mettre toutes les chances de mon côté que ça se passe bien, ça fait des mois que je m'entraîne à monter, à augmenter le nombre de salutations au soleil dont je suis capable. Mmh. Tout en étant capable, si je sens que je plafonne, un jour, pendant plusieurs semaines, j'arrive pas à dépasser 50, c'est que j'ai dépassé ma capacité d'adaptation pour le moment. Quand on se met à stagner comme ça, il y a un secret, mais ça, notre ego n'a pas envie de l'entendre. Il faut régresser, il faut reculer. On redescend, on va moins loin, on va moins fort. Pour le coup, on peut en faire que 40, par exemple, ce qui est déjà énorme, et redonner au corps le temps de se réadapter à ce niveau-là avant de reprogresser. Mais effectivement, si tu fais 6 salutations au soleil dans chacun de tes cours, que tu fais 2 cours par semaine et qu'un beau jour, tu dois en faire 108, il n'est pas du tout dit que tu te blesses, mais tu augmentes les risques de te blesser, effectivement.
Je sais qu'il y a autre chose dont tu avais envie qu'on parle, c'est aussi la question des ajustements donnés par les enseignants de yoga. Alors à la fois les consignes et les ajustements qui peuvent être donnés par les profs, qui peuvent parfois eux-mêmes provoquer, favoriser des blessures. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus ?
Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. On a dans le yoga une croyance parmi d'autres que l'alignement protège. Dans l'esprit, l'alignement est censé protéger parce que... Alors, c'est une croyance qui est liée à la volonté de bien faire. Hein. Évidemment, on veut absolument protéger le pratiquant et on se forme à l'alignement. Et cet alignement nous dit que si on aligne les segments osseux d'une certaine manière, on se protège des blessures. Et que si la personne s'est blessée, c'est qu'elle était mal alignée. Et ça, en fait, c'est vraiment une croyance parce qu'on a vu que les blessures, elles sont tellement multifactorielles que l'alignement, finalement, il ne joue qu'un petit rôle dans cette histoire-là. D'autant que l'alignement fait référence à une géométrie de la posture qui nous viendrait d'une certaine tradition. Et on l'a un petit peu emballé un peu vite dans des règles de biomécanique qui nous dit que c'est quelque chose qu'on entend en yoga, que si les os sont empilés, sont bien alignés, sont empilés, les forces alors sont bien guidées dans le corps et ne vont pas appliquer des forces de cisaillement, des contraintes sur les tissus, comme les ligaments du genou, par exemple. Et ça, c'est pas très réaliste, en fait, parce que, pour plein de raisons, parce que les anatomies sont très variables. Les personnes, d'une personne à l'autre, on retrouve jamais la même anatomie, la forme des hanches, la forme des épaules est différente. Et cette quête d'angle ne peut pas correspondre à chacun, en fait. Et ce qui est protecteur pour l'un peut être cause de blessure pour l'autre. Je pense à ces fameuses consignes géométriques d'alignement qui, à l'inverse, pourraient surstresser des articulations dans le bassin qu'on appelle les sacro-iliaques. C'est l'articulation entre le sacrum, donc la toute fin de la colonne vertébrale, et le bassin. Quand on regarde le bas du dos, la chute de rein, c'est deux petites fossettes en bas du dos. Bon, les sacro-iliaques, ce sont les articulations qui marquent cette fossette. Et il existe des consignes qui sont universalisées, qu'on entend vraiment dans le monde entier. Quand on veut faire une torsion assise, on nous demande en général d'ancrer nos ischions, c'est-à-dire de planter les os des fesses dans le sol avant de tourner. Et cette consigne-là, elle est extrêmement sollicitante pour les articulations sacro-iliaques chez la femme, parce qu'elles sont moins stables pour les raisons de laxité dont je parlais, liées aux hormones. Et dans le même registre, il y a, quand on pratique le triangle, on propose de se glisser entre deux murs. Bon, cette consigne, elle n'a pas beaucoup de sens sur le plan ostéo-articulaire, et par contre, elle va vraiment solliciter les sacro-iliaques. Ce sont des consignes qui sont très très exigeantes pour des personnes, des femmes avec un bassin qui a une certaine laxité, c'est-à-dire des femmes en âge de procréer, et plus particulièrement encore dans certaines phases du cycle, en deuxième partie du cycle, en raison des hormones, on est un peu plus laxe. Et à ce moment-là, il peut arriver que ce soit trop pour les sacro-iliaques et qu'on se blesse.
Et là, donc, du coup, ton conseil, ce serait quoi? Ce serait déjà, d'une part, de ne pas toujours prendre au pied de la lettre les consignes données par les enseignants et enseignantes. Enfin, comment on fait pour savoir ce qui est juste pour nous, du coup?
Oui, je sais que c'est très difficile. On revient systématiquement à la première des consignes, qui est écouter vos sensations malgré ce que dit l'enseignant. Mais c'est extrêmement paradoxal parce que l'enseignant est censé savoir. Donc c'est vraiment difficile de faire le tri entre ses propres sensations, ce qu'on est censé, ce qu'on est supposé ressentir, et le fait que la consigne est vraiment valable ou pas. Mais voilà, faites-vous confiance, écoutez les signaux du corps, autorisez-vous à faire différemment. Vraiment, autorisez-vous à pas faire, et ça peut être très difficile pour certaines personnes, autorisez-vous à faire même le contraire de ce qu'on vous a dit. Si on vous dit de tourner la tête vers le ciel et que c'est pas bien pour vous, c'est pas agréable pour vos cervicales, regardez par terre. Autorisez-vous à faire des essais, à manipuler la posture. Et toujours au lieu d'essayer de se fixer, de rentrer dans cette posture de force, celle qu'on a vue dans les réseaux sociaux, dans les médias, d'essayer de se l'approprier de l'intérieur. Mais c'est tout le chemin du yoga et parfois ça prend du temps et on...
Et finalement, pour nous y aider, c'est aussi le rôle des profs aussi de, eux, travailler à l'inverse sur leurs consignes et de donner des choses qui soient peut-être un peu plus adaptées, un peu moins idéalisées des fois dans ce qu'ils montrent ou dans ce qu'ils demandent à l'oral.
Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui commence à se faire sur le fait que l'enseignant n'a pas un scanner dans les yeux, à la place des yeux. Et l'enseignant, ça c'est une autre croyance qu'on a quand on est pratiquant de yoga, on nous a laissé entendre que l'enseignant sait à notre place jusqu'où on peut aller. Et c'est totalement faux, l'enseignant ne sait rien de votre corps, il ne sait rien de votre ressenti. Quand un pratiquant pratique, j'ai la certitude qu'il fait déjà son maximum. À chaque instant, on a plutôt des personnes qui font trop que pas assez, de manière générale. Et il y a un vrai paradoxe dans l'enseignement, dans la pédagogie du yoga, entre la proposition d'écouter les sensations et puis de se permettre de pousser la personne à un moment dans une posture. Et ça génère des blessures. Là, pour le coup, on a des retours qui sont vraiment importants, même s'il n'y a pas d'études sur ce sujet-là en particulier. Les blessures par contact, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister en réalité. Donc la blessure par contact, il s'agit de pousser l'élève, de faire levier avec le... C'est l'enseignant qui fait levier avec le poids de son propre corps. Par exemple, quand on est dans la pince assise, on est assis sur le sol et on essaie de s'incliner en avant. Et il peut arriver que certains enseignants viennent pousser sur le dos pour nous faire aller plus loin.
C'est un peu comme en danse classique, quoi. Le côté « je m'assois sur toi, ça va améliorer ta souplesse
». Alors, ça ne va pas améliorer la souplesse parce qu'on a vu que c'était une question d'adaptation et que l'adaptation, elle ne se fait pas tout d'un coup. Et qu'en plus, c'est une question génétique. Donc, il y a des personnes qui vont... Chacun va rester à son plafond une fois qu'il a atteint son potentiel, en fait. Et malheureusement, aller plus loin déjà, ça ne va pas nous rendre ni plus heureux, ni en meilleure santé, ni plus spirituel. Et une blessure par contact, ça peut même relever, je pense, enfin je suis certaine maintenant, j'ai mis du temps à l'accepter, ça peut relever de l'agression. C'est-à-dire que les situations dans lesquelles on se retrouve en tant que pratiquant, dans une posture dans laquelle on est en situation d'infériorité et de perte de contrôle. Ça peut être une posture sur les épaules, une posture sur la tête, n'importe quelle inversion, par exemple la pince assise dont je parlais à l'instant. Ça peut être le chien tête en bas, tout simplement. Et quand un enseignant arrive sans nous prévenir, on ne le voit pas arriver, on a la tête en bas, hein, qu'il nous touche, qu'il nous pousse sans notre consentement, qu'il y ait blessure ou pas, c'est une agression. Je sais que ça peut être choc comme information, et j'ai mis moi-même du temps à en prendre conscience parce que j'avais été victime à plusieurs reprises et de cette situation. Et il m'a fallu lire des témoignages de personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime, comme Donna Farry, par exemple, qui est une enseignante qui vit en Nouvelle-Zélande, qui a beaucoup parlé sur ces sujets-là. Ce sont des agressions, et dans un monde aujourd'hui où la prise de conscience que la violence est tellement commune, tellement fréquente, sous des formes diverses, hein, on se rend compte tous les jours qu'il y a une nouvelle forme de violence qu'on avait tolérée, qu'on avait intégrée comme étant normale. Je pense que le monde du yoga doit être absolument exemplaire.
D'ailleurs, on le voit dans de plus en plus de studios, hein, cette question des ajustements, même sans parler de pousser fort, mais simplement même la question d'accepter ou non d'être touché pendant un cours. Il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, par exemple, pour des manières de signaler aux profs si on souhaite ou non être ajusté manuellement.
Oui, voilà, c'est la meilleure des démarches, je crois. L'enseignant devrait d'abord commencer par, avant même de vous toucher, d'abord, il peut faire un ajustement à la voix. Si vraiment on sent que la personne est dans une posture un peu bizarre et qu'elle pourrait peut-être améliorer sa posture, on peut lui expliquer comment faire. Si vraiment elle ne le ressent pas, l'enseignant devrait commencer par demander « Est-ce que je peux te toucher ?» C'est vraiment la première des choses. Elle peut demander aussi comment on se sent dans la posture pour vérifier que ce qu'on présuppose à la vue correspond vraiment au ressenti, parce qu'on ne sait pas comment ressent ce que ressent la personne. Est-ce que vraiment c'est inconfortable pour elle ? Puisqu'en effet, il y a tellement de variations d'anatomie que nous, on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'il y a un truc qui cloche, mais pas forcément. Si ça se trouve, on se sent très bien dans cette posture. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tension. Et quand on a donné son autorisation, si l'enseignant doit nous toucher, c'est vraiment du bout des doigts, juste pour donner une intention de mouvement, pour faire sentir une direction, pour donner un petit repère de proprioception. Hein. La proprioception, c'est la sensation, la perception du corps dans l'espace. Parfois, il y a des personnes qui ne sentent pas bien où elles sont dans l'espace. Donc ça peut être une intention tout à fait louable. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la yoga thérapie qui m'a apporté ça. Parce qu'on a tendance en yoga à enseigner en disant faites ça, ça, ça et ça, et on estime que les personnes ressentent ce qu'on ressent soi. On a tendance à projeter ses propres sensations, ses propres perceptions. Et en réalité, en yoga thérapie, on apprend vraiment à demander à la personne ce qu'elle ressent pour être en phase avec ce qu'elle vit vraiment et pas ce qu'on imagine qu'elle vit. Donc, quand on a un ajustement comme ça, la personne devrait vraiment demander « Est-ce que c'est mieux pour toi maintenant ?» Et effectivement, ça peut être mieux, mais ça peut ne pas. Et auquel cas, un enseignant qui a conscience de tout ça va accepter avec beaucoup de gentillesse que vous repreniez la première position dans laquelle vous étiez, si ça ne vous convient pas, ce qu'elle vous a proposé. Donc c'est toute une démarche, en fait, toute une démarche de dialogue, de bienveillance, de précaution, parce que le corps de l'autre, on ne sait pas ce qu'il a vécu, on ne sait pas quel est son passé.
Oui, ça c'est très important, effectivement, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres conseils sur ce sujet d'essayer d'éviter les blessures dans notre pratique que tu aimerais donner, qu'on n'a pas encore abordé ?
Ben oui, alors en dehors de tout ce qu'on s'est dit sur son état de santé du moment et son ressenti du moment, il y a des choses toutes bêtes comme la température de la salle. Souvent, on pense que le yoga dans la chaleur peut nous faciliter la pratique. Il faut faire attention à ne pas aller trop loin parce que ça peut être un facteur de risque. Parce que les tendons, la chaleur modifie la viscoélasticité des tissus et limite la sensation de raideur. Donc le frein qu'on a habituellement où on se sent un petit peu raide et on va progressivement améliorer cette raideur, quand on est dans la chaleur, on n'a pas ce frein, on n'a pas cette sensation et on peut facilement aller trop loin. Donc il faut faire attention à ça si on aime le yoga dans la chaleur. Et puis alors des choses toutes bêtes, hein, comme un tapis bien adhérent, comme surtout éviter les chaussettes. Ce serait dommage de glisser. Voilà, renforcez-vous, ayez de la récupération entre les pratiques, et plutôt que de valoriser la souplesse à tout prix, même si la souplesse est importante, pratiquez des choses qui vous renforcent, soyez très très progressif, soyez très patient, il faut beaucoup d'humilité pour pratiquer le yoga, s'écouter toutes ces sensations de fatigue comme de stress, comme son élan quand on est en pleine forme et que tout d'un coup on a envie d'en faire plus. Si vous avez des courbatures, une fois ou deux, c'est OK. En démarrage de saison, par exemple, au mois de septembre, si on a arrêté pendant un temps. Mais si on a des courbatures systématiquement, c'est qu'on est systématiquement au-dessus de la capacité d'adaptation de ces tissus. Mmh. Et sachez, si vous aimez les étirements, une dernière chose importante à savoir, c'est qu'un étirement au seuil de la douleur ne sera pas plus efficace en termes de gain d'amplitude qu'un étirement avec une sensation modérée. Donc, pourquoi se faire mal quand un étirement avec une sensation à 5 sur 10, donc la moitié de la sensation d'étirement suffit à avoir la même amélioration d'amplitude articulaire. Donc, restez à mi-chemin, ça suffit largement et ça vous évite peut-être des bobos.
Ok, bah ça, écoute, ouais, je savais pas cette information, enfin, on me l'avait jamais formulée comme ça, en tout cas, c'est super intéressant. Bah écoute, merci beaucoup Florence pour tous ces éclairages et puis tous ces conseils qui, je pense, vont voilà, nous éviter de nous faire mal et nous permettre de continuer à pratiquer le yoga sans avoir à s'arrêter, etc. Alors toi, je crois que maintenant tu fais uniquement de la formation, mais où est-ce qu'on peut te retrouver si on est prof de yoga et qu'on souhaite se former avec toi à toutes ces questions notamment et à l'anatomie ?
Merci pour ton accueil, je pense que c'est un sujet important, j'étais contente de pouvoir en parler. Et alors moi, on me trouve sur les réseaux sociaux sous le nom Florence _, donc le trait d'union bas, là, le long, yoga-thérapie, IE. On me trouve très facilement là et il y a un lien avec l'accès à tous mes liens, à toutes mes propositions de cours détaillées. Et il y a également un contact et de quoi s'inscrire pour ma newsletter si vous avez envie d'être tenu au courant des différents ateliers pour les pros, très éventuellement pour les pratiquants avancés, les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur comment ça marche dans le corps, comment ça fonctionne. Bienvenue aussi.
Voilà. D'accord, et ben je remettrai tout ça en description du podcast pour qu'on puisse te retrouver facilement. Merci beaucoup Florence.
Merci Laura.
Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour explorer une nouvelle thématique autour du yoga. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de sujets pour le podcast, n'hésitez surtout pas à m'en faire part sur mon compte Instagram @yogaetnouspodcast. Peut-être que ça deviendra un prochain épisode. À bientôt.